Actu SF, les podcasts.
Ouais, tout un peu avant. Sera... Je sais pas si ça fonctionne. Si, vous m'entendez? Eh bien, on va pouvoir commencer. Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être venus pour cette conférence, pour la présentation de notre revue de science-fiction Titan Terrible. Pour ma part, c'est la première fois que je fais ça. Donc, si j'ai un peu des bugs, veuillez m'en excuser. avec moi, j'ai un auteur et une autrice qui ont fait une bande dessinée de l'illustration dans Titan Terrible, justement, la première revue. Donc Hassen, qui est auteur et illustrateur, et Mélanie Alak, qui est autrice et illustratrice. Pour ma part, moi, juste pour vous expliquer un peu, je suis motion designer, et j'ai créé, en fait, avec plein d'amis illustrateurs et qui font de la BD, il y a maintenant, en 2017, il y a maintenant plus de 5 ans, une association qui s'appelle TTT Corp, et... pour juste vous expliquer un peu cette association-là que nous avons fait la revue Titan Terrible. Pour vous raconter un peu, en fait, Titan Terrible, c'est 8 auteurs, autrices, qui sont de Nantes, 2 illustrateurs et 2 journalistes, qui sont aussi de Nantes. On a voulu faire Nantes et sa région, pardon. On a choisi le thème de la science-fiction, ça nous paraissait assez logique, nous c'est un thème qui nous tient très à cœur, et en fait, pour ne pas vous cacher, on voulait à tout prix être aux Utopiales. Donc on a dit, on met le paquet sur la science-fiction. On a choisi de faire en fait cette bande dessinée, car il y a pas mal d'exemples qui se font comme à Rennes, qui s'appelle c'est une revue de bande dessinée qui s'appelle La Vilaine, je ne sais pas pour certains s'ils la connaissent, et à Brest qui s'appelle Casier, et ils regroupaient aussi comme ça tous les auteurs de chaque ville, pour créer en fait une anthologie, pour créer une revue tous ensemble. Et nous, en fait, chez TTT Corp, on trouvait ça très intéressant de le faire. Et on voulait faire découvrir aussi aux lecteurs et lectrices que, à Nantes, il y avait un grand vivier d'auteurs et d'autrices. Il y avait vraiment beaucoup, beaucoup de monde. Et c'était pour cette raison-là, en fait, en premier, qu'on voulait créer ça. Et aussi pour, en termes de distribution, pour nous, c'était plus simple de distribuer aux libraires et à la grande distribution autour de nous, en fait. On ne pouvait pas s'attaquer à toute la France. On est une toute petite association, donc on s'était dit qu'on allait vraiment mettre point fort sur Nantes et sa région. Pour vous dire, je vais dire beaucoup de « eux », je suis désolé, c'est un peu un toc. Pour vous raconter un peu, nous, TTT Corp, comme je vous l'expliquais, c'est né en 2017. On avait un coworking tous ensemble, et en fait, de discussion en discussion, on était avec L'Encre Blanche. C'était une ancienne association qui était sur Nantes. Ils sortaient tous de Pivot et ils avaient créé justement une revue de bande dessinée qui s'appelait Cataracte. Et donc, on les a beaucoup fréquentés. Et à un moment, ils sont partis vivre leur vie. Et nous, on s'est dit, ça serait cool qu'on continue à faire un truc comme ça, mais à notre sauce, c'est comme on veut. Et donc, on a créé l'association TTT Corp. Pour une très bonne raison, c'est qu'on était entouré de jeunes auteurs. Et quand on parle de jeunes auteurs, c'est jeunes auteurs en tout début de carrière, qui sortent même justement, pour ceux qui connaissent, de l'école Pivot qui est à Nantes, et qui se retrouvent dans le milieu de la bande dessinée sans trop savoir comment fonctionne l'édition, sans trop comment savoir comment je vais faire une BD, sans trop savoir comment je communique, à qui j'envoie en fait mon dossier de bande dessinée. Et le but, c'est de les accompagner en fait au tout début sur ça, sur une revue qui s'appelle Turbo Time Travel. Alors, je vais vous montrer. Donc voilà, ça c'est l'asso. Je suis un peu décalé. Et donc, on a créé cette revue qui s'appelle Turbo Time Travel. Le thème général, c'est les époques. On prend à chaque fois une époque. Donc, on a fait préhistoire, Asie médiévale, révolution bolchevique, Far West et années 80. À chaque fois, c'est 20 auteurs. On mise un peu vraiment toujours sur les jeunes auteurs. En fait, on les découvre un peu. Et ils doivent faire une histoire qui est construite vraiment début, milieu, fin, entre 4 et 20 pages. Et ça, en fait, c'est un peu notre gros projet. Et c'était là. Et en fait, ça fait 5 ans que ça dure. Et ça fait, grâce à ça, en fait, grâce à Turbo Time Travel, en partie, il y a pas mal de jeunes auteurs qui ont signé leur premier contrat d'édition. En fait, c'était, c'est un peu pour nous la grande réussite de ce produit-là, car en fait, maintenant, les éditeurs, des fois, ils nous contactent et ils nous demandent quand on va sortir le prochain Turbo, ou ils le commandent. Nous, on fonctionne en fait en crowdfunding, car on n'a pas les fonds nécessaires pour pouvoir payer les impressions. Donc, en fait, ils le précommandent sur Ulule et en fait, ils le reçoivent. Et là, j'ai su, par exemple, il y a 2 semaines, il y a un des auteurs qui est dans le dernier volume des années 80. Et qui vient grâce à Turbo Time Travel, il a été contacté par c'est pas les humanoïdes associés, c'est en bulle, enfin bref, une maison d'édition. Et je sais pas, peut-être vous connaissez. Non. Bon.
Et il va. Oui, Largo, on peut tous les dire et tu dis stop quand c'est la bonne. Casterman. Non.
Non, je sais plus du tout.
Albin Michel.
Et donc il a signé son premier contrat. Donc en fait, nous, pour l'association, c'est hyper satisfaisant de pouvoir faire ça. Et donc je voulais échanger aussi avec Hassen qui est là et Mélanie Alag pour qu'ils nous racontent un peu aussi eux en tant que jeunes auteurs. Vous, comment ça s'est passé, les sorties d'école, quelles études vous avez fait, et aussi comment vous aviez un peu lancé votre carrière, comment ça a débuté, est-ce que vous aussi vous êtes regroupé avec d'autres illustrateurs, illustratrices ou auteurs pour pouvoir construire quelque chose et vous faire connaître en fait. Donc là, je vais vous laisser un peu la parole.
Tu veux que je commence? Moi, alors j'étais pas à Pivot parce que j'étais pas à Nantes avant, j'étais à Angoulême, donc je fais les Beaux-Arts à Angoulême. Et on a fonctionné un petit peu pareil, c'est-à-dire qu'il y avait déjà des collectifs qui étaient nés dans l'école, hein, parce que c'est quand même une école où on fait de la BD principalement, donc qui est connue pour ça en tout cas. Et il y avait un collectif qui s'appelait Café Creed à l'époque, et qui donnait un petit peu l'occasion pour chaque promo de bande dessinée de faire une revue, mais super poussée, vraiment, ça ressemblait à des très beaux livres. Donc, moi, ma promo, on a fait 3 albums comme ça, qui étaient un petit peu le même genre de support que Turbo. C'est là-dedans qu'on a appris un peu aussi toute la chaîne graphique, bricolé des trucs, fait nos boutiques. On a participé plein de fois au Festival d'Angoulême. Donc, on a fait nos armes en tant que jeunes auteurs, vraiment par l'autopublication, presque plus que par l'école et par l'apprentissage de l'école. C'était vraiment grâce à ça qu'on a appris un peu les ficelles du métier au début, de comment diffuser ses bouquins, comment se faire connaître, montrer son travail. Et à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux aussi poussés, il n'y avait pas Insta, etc. Donc c'était vraiment hyper important de se déplacer et d'avoir des revues en fait, pour avoir une sorte de catalogue de son travail. Donc moi, je sais que ça a vraiment forgé mon début de carrière, en tout cas en tant qu'autrice, quoi. Et puis après, une fois sortie de l'école, c'était beaucoup plus simple. Je savais où je mettais les pieds. Et puis j'ai fait partie après avec le même collectif des débuts de Tcho. Enfin, pas des débuts du coup. Nous, on s'est glissé dans la fin de Tcho plutôt. Et c'était aussi. Ils nous avaient contactés grâce à ça. Grâce à ce qu'on faisait. On avait une revue qui s'appelait Morvel, qui était une sorte de parodie de Marvel, avec des super-héros un peu pourris. Et grâce à ça, Glénat est venu nous chercher pour bosser sur une sorte de comité de lecture avec des petits jeunes comme ça, qui commençaient dans la BD. Et donc c'était hyper intéressant parce qu'on a bossé avec des gens qui avaient vachement de bouteilles et qui ont pu nous apprendre plein de trucs. Donc moi, c'était comme ça que ça s'est fait vraiment pour mettre le pied à l'étrier de la bande dessinée. Voilà. Et puis après, j'ai travaillé pour l'édition, quoi.
Ça a vraiment le même parcours que Turbo Time Travel,
ça. Carrément.
Parce que nous, on a commencé pareil à se dire, pour Turbo Time, c'était comment on fait une revue, quel format on prend. On a fait plein d'erreurs. Même pour vous dire, le premier volume, c'est vraiment ma faute, c'est la couverture, on l'a mise à l'envers. Donc on a reçu toutes les revues.
On n'a pas fait ça, nous.
Ouais, j'ai un peu honte, mais bon, je l'assume. Mais il est collector maintenant. Et on va dire ça.
Faut dire que c'est fait exprès.
Ouais. Ça a été dur d'encaisser ça. Mais ouais, la même chose. En fait, vraiment, c'est là où Turbo Time Travel, ça nous a vraiment informé à dire on construit un magazine, une revue, comment on construit ça. Et juste de base, et comment on construit des histoires, en fait, et à plusieurs. Et et comment on gère 20 auteurs qui parfois c'est free, hein. Enfin, on leur dit un format, ils s'en fichent. C'est vraiment, ils font comme ils veulent, quoi. Mais non, mais c'est hyper cool. Et donc, tu es passé par Glénat et c'est là que tu as fait ta première peut-être publication.
Ben en vrai, finalement, moi, je considère que le Café Creed et Morvel, c'était mes premières publications, ouais. Parce qu'en fait, on était diffusé par en librairie, etc. Donc, ouais. je le mets dans mon cœur, en tout cas, bien avant Glénat. Mais oui, après, les premiers boulots, on va dire le vrai travail, pas autoproduit, c'était dans le show, quoi. Ouais. Dans le show, et puis après j'ai bossé pour la presse jeunesse beaucoup, pour J'aime lire, Astrapi, tout ça. Voilà. Donc dans la foulée de la sortie de l'école, quoi. Une fois que j'étais un peu plus libre. Voilà. Et après l'édition.
On a tous lu tes BD en fait avant, quoi. Show, enfin J'aime lire ou des choses comme ouais. Ça. Sans le savoir en fait, je pense.
Peut-être. Après, ça n'a pas duré longtemps parce que en fait c'était vraiment une sorte de sauvetage de show qu'ils avaient tenté. Parce que ça commençait un peu à couler, donc il s'était dit bon, on tente le tout pour le tout. Et donc c'était très rigolo parce qu'on avait une sorte de carte blanche et avec un comité de lecture tournant, c'est-à-dire que tous les trois mois, je crois que ça changeait. Et donc une partie de notre petite équipe du Café Creed participait avec des gens super installés aussi chez Glénat. Donc on était un petit peu parrainés, ouais. Pour faire n'importe quoi, vraiment. Donc c'était très très drôle. Bon, bien sûr, le magazine a continué de couler. mais c'était hyper intéressant parce qu'ils nous ont vraiment montré les contraintes là vraiment très professionnelles du métier. On avait des échanges avec le marketing, des réunions avec le marketing qui étaient complètement surréalistes pour nous, quoi. Et donc c'était très 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 intéressant de ce point de vue là même si on aurait aimé remplacer Titeuf en vrai, mais ça n'a pas marché.
Et cet asso n'existe plus maintenant ?
Si, mais en fait, vu que tout le monde est un petit peu éparpillé aux quatre coins de la France maintenant, parce qu'on a fini nos études, on fait des projets toujours, mais un peu plus, un petit peu plus espacés dans le temps, on va dire. Il y a un petit projet tous les ans. On a toujours un stand à Angoulême, sur la place, quoi, depuis tellement longtemps. C'est une asso qui a 20 ans maintenant, quand même, donc qui fait partie des murs d'Angoulême. Donc on fait toujours des petites choses. Enfin, en tout cas, les gens qui sont sur place à Angoulême font beaucoup de choses. Et ceux qui sont partis dans d'autres villes, du coup, se greffent souvent un peu au dernier moment sur les projets, juste pour pouvoir aller participer.
Pour avoir le stand à Angoulême.
Ouais, aussi, mais non, mais surtout parce que c'était une très bonne époque et que en fait, quand on a goûté un peu au travail associatif comme ça, c'est un peu c'est un peu une drogue, quoi. Donc moi, c'est pour ça que j'ai un peu participé aussi à Maison Foumétis, c'est parce que je recherchais aussi ce retour au travail associatif qui est hyper intéressant, hyper enrichissant, et, voilà, que j'aime beaucoup, mais qui est extrêmement chronophage aussi. Donc voilà.
Ouais, c'est vrai qu'on peut le dire que ça prend énormément de temps. Ouais. Et donc toi, Hassan, alors ton parcours un peu au niveau études et...
Alors moi, c'est très différent. J'ai jamais fait partie d'un collectif à proprement parler. J'ai passé un bac art appliqué à l'école Estienne dans le 13e arrondissement à Paris. J'y ai fait un diplôme d'illustration. C'était il y a très longtemps, c'était quasiment au siècle dernier. Je suis pas du tout jeune en fait, contrairement à ce que tu as dit tout à l'heure. Et après, j'avais vraiment beaucoup glandé chez moi sur Internet. Moi, c'est plus les blogs qui m'ont formé. Donc c'est le truc où on est chez soi et on met des dessins aléatoirement sur un blog. Et par les blogs, j'ai rencontré différentes personnes, en vrai, dont Boulet, avec qui je travaille maintenant. J'ai fait ça quelques années. Et un jour, alors ce qui a vraiment lancé ma carrière, c'est que quand les blogs étaient à la mode dans les années 2000, il y avait un prix de la révélation blog au Festival d'Angoulême. Et j'ai gagné le premier. Et le premier prix, c'était d'avoir une BD éditée en vrai, un vrai livre, en fait, aux éditions Varum. Et moi, j'avais jamais fait de BD de ma vie. Je faisais juste des dessins sur mon blog. Donc, il a fallu que j'écrive un scénario, que je découvre ce que c'est que le CMJN, par exemple, par rapport au RVB. J'avais tout oublié. Tout oublié. Et c'était très difficile. je renie cette bande dessinée que je trouve horrible maintenant, mais qui m'a quand même permis de lancer ma carrière, de découvrir le monde de l'édition, même à petite échelle. La technique, dessiner plusieurs fois le même personnage, par exemple, c'est dur. Et j'avais peur des cases à l'époque, donc il n'y a pas de cases dans cette BD, c'est juste des dessins amoncelés comme ça. J'ai même récupéré des dessins que j'avais dans mes carnets. J'avais la flemme de redessiner une scène et du coup, j'utilisais des vieux dessins à moi que j'avais fait genre 5 ans auparavant. Je fais, c'est bon, ça passe, je vais l'insérer dans l'histoire. C'est vraiment horrible. Mais ça m'a appris le métier. Après, dans ma deuxième BD, j'ai fait à l'employé du mois, qui est un petit éditeur belge. Là, par contre, j'ai fait des cases avec des règles et tout, au stylo. Bref, petit à petit, j'ai après... Et puis Boulet, je devais lui faire de la peine. Il m'a dit, est-ce que tu veux faire une bande dessinée avec moi de science-fiction en 2014? Et j'ai dit oui, avec plaisir, parce qu'on était du coup potes depuis une dizaine d'années. Et voilà, après j'ai fait Bolshoi Arena. Et du coup, maintenant je fais des vraies cases et tout. Je sais ce que c'est que le CMJN. C'est pas mal. Les pages, quatrième de couverture. Je maîtrise l'édition à mort. Voilà, c'est très résumé, mais tout ça pour dire que j'ai pas eu de collectif comme Café Creed. C'est plutôt des groupes de blogueurs, donc d'énormes branleurs. Et moi, du coup, j'ai gagné ce concours. J'ai eu vraiment beaucoup de chance parce que j'ai rien fait. J'ai juste inscrit mon blog au concours de la Révélation Blog. Genre, c'est juste, ça m'a pris 2 minutes et ça m'a permis d'être édité. Ce qui est honteux comme chance. Surtout qu'il y avait aucune BD sur mon blog, donc je sais pas pourquoi j'ai gagné, mais bon, voilà. C'est un coup de bol, ma foi. C'est comme ça la vie.
Mais c'est une superbe histoire. Et on peut retrouver cette BD maintenant ou pas?
J'espère pas, mais je pense que tu peux la retrouver en occasion sur Cdiscount. Non, ça n'existe plus, Cdiscount. Price Minister. Non, ça n'existe plus non plus. Je suis vraiment trop vieux. Ça doit être trouvable, je pense. Ça s'appelle Abigail, comme le prénom.
Ok.
Voilà.
Et tu n'avais pas participé, justement, tu disais pas de collectif, mais tu n'as pas participé à une bande dessinée, c'est la vie des gens, je ne sais plus.
Ah oui, oui, ça c'est un truc collectif, même si on n'était pas ensemble, c'était Les Autres Gens, qui était une BD novella, donc une espèce de soap opéra avec un épisode par jour qui fonctionnait par abonnement. Et chaque jour, il y avait un dessinateur différent. On avait une trentaine de cases pour l'épisode. Donc il y avait un seul scénariste qui est Thomas Caden, du coup. Qui maintenant s'occupe de la revue Topo et scénarise aussi des bandes dessinées. Il était un peu précurseur parce qu'on était en 2010, entre 2010 et 2012. Et du coup, il écrivait tout le scénario et il envoyait quelques semaines, quelques jours parfois à l'avance à un dessinateur qui disait « Je t'en supplie, dis-moi oui pour dessiner cet épisode, sinon il n'y a pas d'épisode la semaine prochaine. » Et voilà, et on était plusieurs, on était vraiment beaucoup. Je ne peux pas lister tous les noms, ça a été édité après aux éditions Dupuis. Il y a 15 tomes en tout, des gros pavés. Et comme c'est le principe de la telenovela, c'est-à-dire que c'est des histoires d'argent, des histoires de cul, des histoires de machin, voilà, qui tournent, c'est dans l'esprit de Thomas Caden après, ses obsessions.
Moi, je les ai chez moi en fait, et c'est là où j'ai découvert ton travail.
Cool. Mais en fait, je changeais de style à chaque épisode, moi. Parce que je ne savais pas trop, et je bossais dans une boîte à l'époque, et mes épisodes, je les faisais à ma pause déjeuner. À la terrasse, ça fait un peu genre la vie de bohème et tout, mais je dessinais dans mon carnet en buvant mon café mon épisode à l'arrache parce que je devais le rendre le soir. C'est pour dire que je suis très professionnel.
Ouais, après on peut en rigoler, mais même du CMJN ou du RVB, enfin nous, même pour vous raconter des anecdotes, on reçoit des pages en RVB alors qu'on sait qu'on va les imprimer après. C'est des auteurs qui sortent d'école, on leur a bien dit, CMJN. Enfin voilà, c'est juste des anecdotes qui sont quand même. Enfin, moi qui me font marrer en tout cas. Après, quand on imprime en numérique, le RVB, c'est pas très gênant. Donc, c'est plus quand on passe sur le offset que ça dérange. Bah, merci en tout cas pour ces anecdotes.
Croustillantes.
C'est vrai, croustillantes. On va juste passer là un peu, donc on vous a un peu expliqué la jeunesse de notre association et ce qu'on faisait avant. Là on va partir plus en détail sur les bandes dessinées, sur Titan Terrible. Nous Titan Terrible, donc en fait on a mélangé, on vous parlait au début qu'on faisait avec des jeunes auteurs qui n'avaient pas trop publié encore ou très peu. Et en fait nous le but de Titan c'était de nous professionnaliser. Donc là, en fait, avec Turbo Time Travel, on a appris à comment faire une revue. Là, avec Titan Terrible, on va dire bah, comment on subventionne une revue, comment on, financièrement on paye les auteurs. Toute cette organisation, enfin la partie la plus chiante, quoi, en gros. Et donc on s'est dit, mais comme on voulait se professionnaliser, on voulait se lancer là-dedans. Et c'était très important aussi pour nous, d'un moment, de se dire, bah, les auteurs, auteurs, autrices et illustrateurs, illustratrices qui sont dedans, et les mêmes personnes qui font la mise en page et tout, bah, soient rémunérés. On fait toujours à côté Turbo Time Travel, car c'est quand même un grand plaisir de faire ça, et on va toujours, pour l'instant, on va continuer. Mais Titan Terrible, c'était l'un des premiers objectifs, en fait, de devoir faire ça. Et comment on a fonctionné? C'est un projet, en fait, qu'on a travaillé, ça fait maintenant 2 ans et demi. C'est parti, en fait, avec le Covid et le fait qu'on soit enfermé chez nous. Et on ne savait pas du tout à qui nous adresser. À Nantes, je pense qu'il y en a pas mal qui connaissent, on avait la Maison Fumetti. La Maison Fumetti s'occupe pas mal de tout événement bande dessinée sur Nantes. Et on les a contactés, ils nous connaissaient déjà par rapport à Turbo Time Travel. Et on a dit, bah, on a cette idée-là, mais on ne sait pas du tout qui contacter. Et on espérait avoir des subventions de la mairie ou autre. Et en fait, grâce à Thomas de Fumetti, il nous a bien dirigés, il nous a donné les bons mails, les bons contacts pour pouvoir les contacter. Et en gros, on a réussi, ça a duré un an et demi à peu près, de faire les dossiers et d'avoir les réponses. On a réussi à avoir une subvention de la ville de Nantes, du département Loire-Atlantique et de la région Pays de la Loire. Alors j'avoue, je ne me souviens plus du tout quelle subvention on avait demandé. Mais en fait, c'est grâce à cet argent-là qu'on a pu créer. En fait, dès qu'on a eu cet argent, on a dit, bah, c'est bon, Titan Terrible... D'ailleurs, je ne sais même pas si on avait le nom encore. Si on avait le nom, bah, Titan Terrible, en fait, c'est parti. Et comment on a structuré ça? Ce qu'on voulait, en gros, c'était toujours un peu pareil que Turbo Time Travel, mais on voulait mélanger des auteurs, en fait, qui étaient déjà, on va dire, bien dans le game, et des jeunes auteurs qui sont au début de leur carrière. Et on voulait faire cette rencontre-là, en fait. Parce qu'on savait que si on mettait des auteurs qui étaient connus, bah, on vendrait plein de BD. Et ça a aidé les jeunes auteurs, ça a aidé les jeunes auteurs en fait à se lancer et à découvrir aussi ce milieu-là. Et donc c'était 8 histoires sur le thème de la science-fiction sur Nantes et ses environs. On précise bien ses environs parce qu'on n'est pas obligé de faire que Nantes, on n'est pas obligé de dessiner que l'éléphant et faire la tour de Bretagne. Pardon.
Léo. On a eu beaucoup de temps à la dessiner.
Donc on a lancé ça. Et juste pour vous présenter un peu les 8 auteurs. Donc là, c'est des planches en fait de Hassen. Là, nous avons des planches de Mélanie Allag. Je vous présente après rapidement. Mélanie Allag et Hassen, en fait, on fait une histoire à deux. Donc c'est deux bandes rivales qui s'affrontent dans le Nantes apocalyptique. Et on va venir après pour pouvoir raconter un peu comment vous avez fait ça. Après, c'est Keklero. Keklero, il avait fait justement avant qu'on fasse. On était en train de faire Turbo Time Travel et il avait fait avec 3 amis. Il avait créé Paradise City, pour ceux qui connaissaient. C'est une tuerie. En fait, ils avaient créé une ville de vice. C'était un peu le Los Angeles dégueulasse où des meurtres, enfin, tout se passait. Et ils avaient lancé ça aussi en crowdfunding sur Ulule, c'était hyper bien. Mais il a publié aussi chez Doggy Bag, enfin Label 619, il a fait du Doggy Bag. Et il est tatoueur aussi sur Nantes. Là, c'est Fleur de Sel, donc c'est Gauvin Manhattan, qui a publié une histoire qui s'appelle Peste chez Vid Kogan. D'ailleurs, ça serait très intéressant s'il avait été là de raconter comment il a fait Peste, parce que c'est une sacrée aventure. Et justement, on parlait de ces environs. Quand j'ai proposé le projet à Gauvin, il m'a fait « c'est mort la science-fiction ». Enfin, ça m'intéresse pas du tout. Et après, je lui dis « bah non, mais la science-fiction, tu peux l'adapter aussi à ce que tu veux. C'est plein de sous-genres, en fait. Tu peux, t'es pas obligé de dire c'est des vaisseaux. » Enfin, pour lui, c'était vraiment Star Wars, c'est des vaisseaux qui volent. Et voilà, il s'arrêtait un peu ça, il aimait pas. Et donc, il a adapté une histoire qu'il avait déjà un peu écrite, qui s'appelle « Fleur de sel », et il l'a adapté comme il la voulait, en fait. Là, c'est Hector Morolin. Alors Hector Morin, il est beaucoup, il vient d'un peu de la famille, on va dire Instagram. Il postait plein de petites BD. Ça s'appelait 360, je sais pas s'il a continué, mais ça s'appelait 365 poussins. Et il faisait une petite BD sur les poussins tous les jours. Et bah très vite, c'est quelqu'un qui sort de l'école de Pivot et qui est prof. Bah, Mélanie Alag aussi à l'école Pivot et à l'ECV. Et donc on lui a proposé ce projet et il avait déjà fait aussi une bande dessinée dans Turbo Time Travel. Là c'est Christelle Faure. Christelle Faure, en fait, ce qui est cool, c'est qu'elle elle était au tout début de la création aussi de notre association, en fait. Et elle voulait faire de la BD, elle a fait une BD, deux BD avec nous, après elle a totalement arrêté. C'est parce qu'elle était très stressée, ça lui prenait énormément de temps. Et on l'a relancé parce qu'elle voulait se relancer justement dans la BD. Et on lui a proposé ce projet. Christelle Faure, elle est, pour ceux qui ne connaissent pas, elle est illustratrice et tatoueuse à Piment Tatou à Nantes. J'ai oublié de préciser, mais les deux histoires qu'Ecléro et Christelle Faure sont co-scénarisées par Jason Sorin. Jason Sorin, c'est quelqu'un avec qui je travaille depuis 10 ans. En fait, il est motion designer aussi, et il s'est lancé aussi dans la BD, on a créé toute l'association ensemble. Et maintenant, il est auteur de bande dessinée aussi, et il sortira sa bande dessinée en 2024, sa première aussi, grâce à Turbo Time Travel. C'est Thomas Rajot. Thomas Rajot, pour vous dire un peu, c'est un peu le bon élève. Il rend tout dans les temps. Tout est parfait, tout est au bon format. C'est trop bien de travailler avec lui.
Et je botte.
Ouais, totalement. Mais il est encore jeune auteur et il cherche en fait encore à se faire publier et tout. Et nous, notre but, c'est de l'aider en fait à se lancer là-dedans. Il y a Tom Simil. Alors Tom Simil, c'est vraiment aussi, c'est Instagram à fond. Il fait une BD par semaine. Son style est très marqué, comme vous pouvez voir. Tom Simil aussi, par exemple, avec Turbo, enfin tout, il sortira sa prochaine bande dessinée chez Exemplaire. Pour ceux qui connaissent Exemplaire, en fait, ils fonctionnent un peu aussi sur la communauté des auteurs et ils sortent que, en fait, ils font du crowdfunding aussi. Ils ont leur propre crowdfunding et en fait, faut commander sur leur site internet et il sortira sa BD l'année prochaine. Et donc voilà, je vous ai fait un peu un tour. Des auteurs qui sont, et bien sûr il y a de l'illustration, je ne vous l'ai pas montré, mais je vous laisserai découvrir un peu la revue pour ceux qui ne l'ont pas encore. Et donc on va venir plus particulièrement sur l'histoire de Hassen et Mélanie Alag, qui, on peut le voir sur le dessin, font affronter deux bandes rivales. Donc là je vais vous laisser un peu la parole pour pouvoir raconter un peu la genèse du projet, qu'est-ce que ça raconte.
La genèse.
Je la connais moi, mais savoir un peu. Et comment en fait aussi votre méthode de travail, comment vous avez fonctionné, et est-ce que vous avez pu rendre à temps aussi la bande dessinée?
Comme Thomas Rajot, pile à temps.
Pareil.
Juste pour l'anecdote, ils envoyaient un jour avant d'envoyer chez l'imprimeur. Mais ils ont beaucoup beaucoup de travail. Ils ont vraiment donné énormément en fait pour être dans la revue, et je peux que les en remercier. Grâce à votre histoire et grâce à ce que vous avez fait, ça rend aussi trop trop bien la bande dessinée. Les autres auteurs aussi, c'est vraiment juste merci en tout cas.
C'est nous. Quand tu nous avais proposé de travailler sur ce projet-là, on était assez emballés, mais on était tous les deux en grosse charrette de travail. Toi, tu étais sur Bolshoï et moi, j'enchaînais deux BD aussi que je devais rendre pendant l'été, etc. Et puis comme tout bon projet de BD qui prend du retard, on s'est retrouvé quand même à vraiment pouvoir travailler pleinement sur nos histoires plus tardivement que prévu. L'idée c'était venu quand on était à Angoulême, je crois, hein, c'est ça ? Ouais. On était à Angoulême et on buvait des verres. et en fait on s'est dit toi tu vas, est-ce que tu vas faire le truc pour Turbo Time? Oui, toi aussi. Et vu qu'on était extrêmement charrette, on s'est dit il faut qu'on trouve un truc pour pas faire beaucoup de décors. Ça part toujours quand même de la flemme. mais vu que c'était aussi se mettre des contraintes pour travailler, c'est toujours hyper intéressant. Et on avait envie de bosser ensemble et de faire une histoire ensemble, mais il fallait quand même qu'on trouve un truc malin pour vraiment feinter un petit peu le côté science-fiction lourde. Toi, tu fais beaucoup trop de vaisseaux. Déjà, t'en avais marre. Voilà, l'idée, c'était de faire un truc assez, assez simple. Et puis après, on s'est un peu enflammé, en fait. On a déconné complètement. On est parti.
On s'est compliqué la tâche.
Voilà. Donc on a. Tu veux expliquer après comment on a travaillé peut-être. Vas-y. Alors ça c'est nos recherches.
En fait, l'idée de la bande dessinée pour pitcher rapidement, c'est Nantes dans le futur, post-apocalyptique et. Il y a une partie qui est sous la glace et une partie qui est sous le désert, en gros. Donc, pas de décor dans l'idée. Désert et glace.
Et ce n'est pas grave si ce n'est pas vraiment possible, en vrai.
Mélanie avait le désert et moi, j'avais la glace. Et grosso modo, comme c'est le futur et que c'est post-apocalyptique, c'est un peu la guerre pour l'eau potable. Et donc, ces deux bandes rivales, qui sont des bandes de jeunes un peu paumés, sont tributaires d'un mystérieux personnage qui sait où est la source d'eau potable pour leur sauver la vie. Et il joue avec ces deux bandes en les faisant s'affronter. Et voilà, pour résumer. Et l'idée, c'est que plutôt que de dessiner Nantes dans le futur, on dessine des coins de Nantes qui émergent soit de la glace, soit du désert. Donc moi, j'ai fait le héron de l'arbre héron, par exemple. C'est comme je suis prof à une école qui s'appelle l'ESMA. Ils fabriquent le héron juste à côté, donc je passe tous les jours... souvent devant, et je l'ai vu se fabriquer progressivement. J'ai dessiné aussi un pont à l'entrée de d'Albi, pour ceux qui connaissent. Voilà. Et leur QG, c'est la tour de Bretagne qui est prise dans les glaces. Voilà. Donc j'ai fait le pont de Cheviré, mais hyper loin, pour ne pas avoir à le dessiner trop.
Des bonnes astuces.
Bonnes astuces. Mais il se trouve que la scène finale de notre histoire se passe sur la grue Titan jaune, qui est hyper relou à dessiner. Donc on est vraiment débiles, mais bon, ouais. Bref.
On mettait la grue Titan, on la renverse au-dessus d'un gouffre, et après ils vont se combattre dessus. Voilà, et on a voilà, et après on.
Du coup, on a essayé de contre-plonger très forte, mais c'est pour masquer ça. Et l'idée, c'est que c'est la même histoire, mais vue de deux points de vue différents, et ces deux cases là, qui sont les premières pages, c'est exactement le principe en fait. C'est que c'est la scène d'ouverture. Point de vue de la glace à gauche, c'est moi, et point de vue du désert, c'est eux. Donc voilà, donc ça, tout ce que ça entraîne de subjectivité, de point de vue. On n'a pas été très rigoureux sur les dialogues communs, etc. Et il y a des scènes qui ne sont pas dans l'autre page, etc. Et l'idée, c'est que la résolution de l'histoire, c'est après avoir lu les deux qu'on l'a. Donc il y a une espèce de. On a voulu que ça se complète, un peu comme un puzzle, à deux pièces seulement. Pour qu'on ait l'ensemble de l'histoire, etc., les différents enjeux et tout. Et travailler avec Mélanie, ça m'a permis de créer des personnages qui ont des caractères différents de ce que j'aurais fait, je pense. Je trouve qu'elle a plus de liberté que moi et plus d'humour dans l'approche des personnages. Donc ça m'a pas mal apporté et ça m'a pas mal décomplexé aussi. Je pense que tout seul, j'aurais fait un truc un peu chiant et dépressif. Et là, du coup, c'est un peu dépressif parce qu'il n'y a pas d'eau potable.
On était quand même parti sur un truc assez dépressif. On voulait faire une sorte de Roméo et Juliette ou West Side Story post-apo, quoi. C'était vraiment ça l'idée, quoi. Mais donc, au début, c'était quand même, on était, ouais, ça va se finir hyper mal.
Ça se finit mal, mais bon.
On ne sait pas.
On ne sait pas.
Ouais. Mais après, c'est très jouissif aussi de redessiner le personnage de l'autre, de voir. Moi, j'étais plus à la bourre que Léopold sur le début de la BD. Et donc, quand j'ai reçu ses premiers dessins de mes personnages dessinés par lui, mais c'est trop génial, quoi. C'est super drôle, quoi.
C'est là où on se rend compte vraiment qu'il y a des choses auxquelles moi j'aurais jamais pensé en termes d'accessoires ou. Et c'est la première fois que je faisais ça, en fait, vraiment de me réapproprier parce qu'on a fait des planches du coup de chara-design en quelque sorte pour établir une charte pour que l'autre se le réapproprie. Et c'est là où on se rend compte qu'en fait on se fait un peu plaisir dans le chara-design et on rajoute plein d'accessoires pour rigoler. Puis après, il faut les dessiner.
Après, c'est l'enfer.
Et après, c'est super chiant. Et je comprends pourquoi d'habitude mes personnages ils ont juste un pantalon et un t-shirt et c'est tout, quoi.
Mais c'est bien.
Mais du coup, c'est pas mal, ça leur apporte du caractère. Et on voulait que les personnages se complètent, donc qu'il y ait un personnage qui soit un peu grand et massif, un petit et ténueux, et un autre un peu romantique et lunaire. Et c'est ces deux romantiques et lunaires mystérieux qui tombent plus ou moins, enfin qui sont un peu les personnages principaux, quoi.
Et comment vous avez fonctionné? Alors vous faisiez page par page et vous envoyez les pages pour refaire les mêmes actions?
On a fait tout le découpage ensemble déjà.
Ouais, on a fait plusieurs réunions.
On s'est mis en fait vraiment les pages où on était complètement libre. Il y avait quelques, en fait, il y avait des pages où on avait vraiment la même compo à peu près, qui se répétait vraiment, qui était en vis-à-vis avec les deux points de vue différents. Et il y avait des pages qui nous permettaient d'être un peu plus libres. Donc on a joué sur ce petit rythme-là de va-et-vient entre vraiment on est dans le groupe sable ou dans le groupe glace, et puis les parties communes vraiment où ils se rencontrent, où là il y a des dialogues en commun forcément, parce que sinon il faut vraiment que ça se répète de la même manière, même s'il y a des petites différences. Mais c'est pas gênant, je trouve. Et donc on a calé ça d'abord, et puis après ouais, on s'envoyait réciproquement les planches dès qu'elles étaient assez avancées pour pouvoir être à peu près raccord. Surtout pour moi, parce que moi je suis incapable de faire des architectures de bâtiments aussi fouillées que celle de scène, donc je suivais complètement là-dessus, parce que quand même les quelques pages vraiment de baston, il fallait quand même varier les points de vue. Il y avait la cabine de la grotte Titan qui était censée être en dessous, du coup voilà, fallait être cohérent pour ça en termes de géographie un peu du lieu. Et donc c'était rigolo à faire, mais ouais, on a un peu galéré quand même, mais c'était
un peu, ouais.
Et si c'était à refaire, justement, des choses vous referiez différemment?
Peut-être qu'on essaierait de s'y prendre plus tôt, peut-être.
Ouais, peut-être. Juste
et moins stressé,
dormir.
Avoir moins de tachycardie.
Ouais, ouais. Et puis pas s'envoyer les planches à 2h du matin à chaque fois. Parce
oui, voilà.
Ce qui était bien, c'était qu'on était sûr que l'autre ne dormait pas.
Ouais, voilà.
C'est un peu ma faute.
Envoyer nos pages. Ça, c'est ma page 13. Voilà ma page 14. Voilà ma page 10, etc.
Attends, ça met la pression, en fait, parce que l'autre est à la page 13 et toi, c'est encore à la page 12. Donc, c'est.
Ouais.
Mais ouais, non, faudrait juste qu'on fasse ce genre de choses de manière plus posée. Sinon, c'était super.
Je vous mettrai en contact avec Thomas Rajot. Ouais. Il vous structurera
ouais,
tout ça. Et est-ce que justement, vous avez envie de refaire ça, justement, peut-être pour un plus gros projet, justement, retravailler ensemble ou
Moi, ça m'a donné envie qu'on l'exploite un peu. Enfin, ça, je trouve que c'est un univers qui mériterait d'être exploité. Ça donne envie de rajouter des pages et de faire peut-être l'avant ou peut-être l'après. En fait.
Ouais, le faire courir un petit peu plus lentement, quoi.
Ouais.
Parce que 16 pages, finalement, c'est quand même très, très, très condensé, vu qu'on voulait vraiment raconter un truc qui bouclait deux fois, du coup, et différemment. Finalement, ça compresse quand même énormément la narration, et ça mérite peut-être d'être ralenti un tout petit peu, de faire rentrer les personnages plus progressivement, voilà, comme on ferait, en fait, dans un récit de BD plus traditionnel. Voilà, on prendrait un peu plus de temps. Là, c'est pour.
Moi, ce que j'aime bien, c'est que ça sort vraiment de la relation classique scénariste-dessinateur. C'est-à-dire qu'on est tous les deux scénaristes et tous les deux dessinateurs. Mais chacun a ses propres pages, donc c'est pas non plus des pages hybrides. Et l'idée que les personnages et en fait leur réalité, elle se situe entre nos deux dessins. Donc d'un point de vue de la perception de l'histoire et du personnage, je trouve ça hyper intéressant, cette manière. Et j'ai pas souvenir d'en avoir vu. Enfin, par exemple, Dupuis et Berberian, sans se comparer à eux, mais leur style était assez proche et on ne savait pas trop qui dessinait quoi, etc. Là, le fait que l'histoire soit commune à nous deux, mais que le style de dessin soit très différent tout en étant le même personnage et la même histoire, c'était vraiment quelque chose qui, je trouvais, stimulant dans ce principe-là. Plutôt que...
Une relecture quoi, de chacun, en fait, du travail de l'autre, en fait, c'est marrant. Mmh.
Bah là, moi, en fait, j'ai pas une grande culture en plus de BD, mais pour moi, c'était la première fois que je voyais ça, en fait, vraiment une histoire commune, mais dessinée par l'autre, et en fait, ouais. Chaque point de vue, mais les actions se rencontrent. Enfin, je sais pas, j'ai trouvé ça. C'est hyper bien, en fait. Pour notre premier Titan Terrible, d'avoir ça, c'était un challenge pour vous, et en fait, c'était un challenge pour nous aussi.
Mais c'est aussi ces formats-là qui permettent d'expérimenter des choses qu'on ferait pas dans le rythme d'un album classique avec gros éditeurs, etc. Parce que moi, je trouve que ce que j'aime beaucoup dans le... Enfin, ce que je cherchais dans le Fanzina plus jeune et dans les autopublications et tout, c'était aussi cette richesse de risques qu'on prend, enfin de tentatives, d'expérimentation, de gros délires que on va pas prendre forcément quand on travaille pour, enfin beaucoup moins ou en flip en plus peut-être sur des plus gros projets, et ou alors c'est très très long à faire, quoi. C'est vraiment, ça prend des années pour produire un objet hybride un peu bizarre, qui a plusieurs auteurs, etc. Des fois, ça met des années à accoucher. Alors que sur des projets comme ça de 16 pages, ça permet vraiment d'essayer des choses scénaristiquement parlant et même au niveau de graphiquement. Moi, par exemple, je travaille quasiment jamais complètement à l'iPad, parce que j'aime bien avoir une partie tradie. Et là, je me suis vachement amusée, en fait, en bossant que à la tablette, quoi. C'était ma petite contrainte perso pour normalement être dans les temps. Mais ça n'a pas trop marché.
Comme le fait de ne pas avoir beaucoup de décors.
Voilà. On était plein de bonnes intentions.
Tout le monde s'est un peu dit ça, mais tout le monde s'est mis aussi un peu la pression sur cette revue. Le fait peut-être que ce soit le premier volume.
Ouais, ouais.
On sait par exemple que Christelle Faure, elle n'a pas dormi pendant longtemps. Et Gauvin, il s'est dit, je vais faire tout en tradis. Donc, c'était... Enfin, voilà, c'est une grosse aventure. Pour vous dire à peu près, quand on a lancé le Go avec les auteurs et les autrices, on a mis à peu près... Notre but, c'était de sortir aux Utopiales. On a été les Enfin, c'est sorti, pour vous dire, c'est sorti jeudi après-midi de chez l'imprimeur, quoi. Pour dire, on était vraiment très juste en délai. Et en tout, ça a mis 7 mois en fait à créer. Et on a dû aller très très vite en fait. Et on savait. Et en fait, même pour la couverture que Hassen a fait, on savait pas trop où on allait. On avait bien structuré le truc, mais c'était vraiment un test. Et nous, pareil que pour Turbo Time Travel, en fait, on voulait vraiment pour la couverture laisser la place à l'illustrateur ou l'illustratrice qui l'a fait. On voulait pas la remplir du titre, de savoir quels auteurs autrices y seront, de quoi ça parle et tout. Donc on laisse un peu ça, on laisse les gens découvrir en fait en lisant la revue. Et puis bah pour moi, vous dire pas merci tout de suite, mais peut-être clore la discussion. Je sais pas après s'il y avait des questions justement dans le public. Peut-être qu'ils voulaient se faire. Je sais pas s'il y a un micro ou s'il y en a qui veulent. Se pose des questions.
Du coup, bonjour.
Bonjour.
C'était très passionnant ce que vous avez dit, du coup, pendant toutes ces heures. J'ai une question. Vous aviez, au début, vous aviez évoqué. Que vous travaillez en collaboration avec des jeunes étudiants dans la bande dessinée. Vous parliez aussi de votre parcours après vos écoles. La question peut paraître étrange, mais je ne sais pas si certains d'entre vous qui travaillaient dans les écoles... faites passer des entretiens, mais hormis ce cas-là, comment vous voyez de quelle manière vous voyez les étudiants qui entrent dans les écoles? Est-ce que vous voyez en eux une passion, une volonté d'aller jusqu'au bout, et vous leur accordez une confiance pour travailler en équipe et se lancer dans la bande dessinée, ou est-ce que vous voyez plus des étudiants qui tâtonnent un peu, qui ne savent pas trop où aller et qui se cherchent encore?
Je vais laisser les profs répondre là.
Il y a un peu de tout toujours dans les étudiants qu'on a. Enfin, moi, à Pivot, je m'occupe des deuxième années en illustration et en bande dessinée. Et forcément, y a un petit peu tous les profils, quoi. Il y a des gens qui sont déjà très avancés dans leur travail, qui, je m'inquiète pas trop pour eux dans les possibilités d'hésiter, etc. Il y en a qui sont un peu plus paumés, qui c'est pas encore très défini. Mais en fait, le parcours jusqu'au moment où vraiment concrètement on devient auteur, il est assez long. Il passe par plein d'étapes. Donc moi, mon rôle en tant que prof, par exemple, c'est surtout leur donner des outils de pour se situer un petit peu déjà eux-mêmes dans le champ de l'art, quoi. De les nourrir aussi intellectuellement, culturellement, voilà, pour que leur travail soit voilà, soient plus riches, quoi. Et puis leur donner un petit peu des outils de avec des petits jeux de contraintes, etc. Pour arriver à se débrouiller un petit peu dans toutes les situations, être un petit peu couteau suisse. Moi, j'ai une formation pas appliquée, j'ai une formation Beaux-Arts, qui fait que, en gros, le principe, c'est que on a une histoire et quel médium on va utiliser pour la raconter. En art appliqué, c'est un peu différent. Moi, j'ai toujours pensé comme ça le travail. C'est généralement, j'ai envie de raconter quelque chose et je me demande, est-ce que c'est un boulot à la peinture qu'il va falloir faire, un truc tout en numérique. Là, je fais une histoire de science-fiction. Quel graphisme je vais utiliser pour ça. Enfin voilà. J'essaye de les amener à être en cohérence avec ce qu'ils racontent. Voilà. Forcément, c'est très, très, très varié. Ça ne se fait pas du tout de la même manière chez chacun. C'est en adéquation avec la personnalité de chaque étudiant. Y en a pour qui ça va prendre plus de temps que même le temps de l'école. Il y en a pour qui ça peut aller très vite à la sortie d'école, ils vont publier direct. C'est difficile de faire des généralités. C'est vraiment... c'est aussi ce qui est intéressant en tant que professeur, je trouve. Je fais pas ça depuis très très longtemps. Je fais ça depuis 2 ans et demi, 3 ans. Et moi, ça me permet un petit peu de me rendre compte un petit peu de comment formuler un peu ma pratique, en fait, d'apprendre aux autres comment on travaille. Ça m'aide aussi moi à me dire ok, en fait, c'est comme ça que je fonctionne. Quand on est dans le jeu, on ne s'en rend pas forcément compte. Et puis j'essaie de passer aussi le rôle de passer le flambeau aussi et puis d'apprendre un peu ce que j'ai appris et de démêler un peu les choses pour les autres, quoi. Après, ça se fait petit à petit, je pense. Et puis c'est des métiers où on apprend toute la vie, quoi. À chaque projet, c'est un nouveau challenge, un nouveau truc. Quelque chose qu'on ne sait pas faire, qu'on essaye de résoudre, quoi. C'est vraiment comme de la recherche. Je pense qu'on est assez proche des scientifiques de ce point de vue-là. Il y a quelque chose comme ça, d'être un peu dans le doute permanent. On cherche quelque chose, mais on ne sait pas ce qu'on va trouver. Et on apprend. Le temps des études, ce n'est pas une finalité pour moi. C'est juste, j'essaie de leur donner un peu des clés pour que ce soit moins difficile, quoi. Voilà. Je ne sais pas.
Moi, je suis pas prof dans une école de BD ou de 2D. Je suis prof dans une école de 3D d'animation. Comme je suis prof de storyboard, ça reste du coup de la 2D et du dessin que je fais faire à mes étudiants sur papier. En fait, l'école sert justement à atteindre ce but. Et c'est valable pour toutes les écoles, je pense. À se rendre compte qu'ils soient prêts pour travailler en équipe, surtout en animation, et qu'ils soient sûrs de leur vocation. Enfin, moi, je vois, comme je suis aussi prof en classe, en prépa, donc quand ils sortent du bac et en deuxième année, on voit des vocations qui s'affirment ou d'autres qui quittent le cursus. Donc, ça permet aussi des espèces de sélection et ils s'assurent tout au long de leurs 5 années d'études qui veulent vraiment bien faire ça et qui comprennent bien tous les enjeux que ça représente de se lancer dans cette étude et dans cette formation. Moi, je les ai au tout début et à mi-chemin, en fait, en deuxième année. Donc déjà, je vois l'évolution et en quelque sorte l'écrémage, on pourrait dire, de ceux qui se réorientent, ceux qui choisissent autre chose et ceux qui sont vraiment, vraiment convaincus. Et je suis personnellement à une année charnière où... La 2D disparaît petit à petit pour vraiment faire place à technicité 3D, donc beaucoup plus de numérique. Le board, c'est vraiment plus du dessin à l'ancienne, en fait. Moi, dans ma matière, ce que je veux juste, c'est qu'ils s'éclatent ou qu'ils s'amusent et qu'ils prennent l'intérêt de raconter une histoire, en fait, avec des dessins, donc une suite... de plans, etc., et de voir tous les enjeux de mise en scène, et qu'ils trouvent ça stimulant et intéressant. Il y en a pour qui c'est le cas, d'autres pour lesquels c'est pas le cas, donc voilà, ça arrive. C'est une espèce de... c'est littéralement une formation, donc en deuxième année, ils sont pas encore tout à fait finis, on va dire, et normalement en quatrième année, oui. Voilà.
Moi, ce que je peux te répondre, et de ce que je sais, en fait, par rapport à des relations prof-élève, c'est que je sais que certains profs font appel des fois à des anciens élèves pour faire de la colo ou des trucs comme ça sur leur bande dessinée. Ou j'ai un exemple concret, j'ai rencontré, je crois que c'est Titouan Bolin, qui vient de sortir tout juste sa première bande dessinée qui s'appelle La Chevaleresse. Et il venait de sortir de l'école et en fait, un de ses profs, c'est Mathieu Bablé. Et quand j'ai rencontré Titouan, bah, il m'a dit, bah, enfin, avec, ça a dû très bien se passer avec Mathieu Bablé, bah, il est dans le prochain Midnight Tales. Pour te dire que des fois, ça peut aller très vite. Après, quand il m'a raconté ça, j'ai fait, ouais, ça n'existe pas, ça, en fait. Enfin, si, mais c'est rare, quoi. Enfin, de ce que je connais des gens autour de moi qui font de la bande dessinée. Et enfin, voilà, pour te dire la relation élève-prof, que, des anecdotes, c'est ça que j'entendais autour de moi. Ou des fois, je sais que d'anciens élèves, par exemple, je sais que une amie, Pauline Giraud, prépare son scénario qui est avec Glénat. Et elle cherchait une dessinatrice, elle n'arrivait pas à trouver. Et elle a posté une annonce dans un truc d'anciens élèves et d'élèves de l'école Pivot. Dire, bah, je cherche quelqu'un dans ce style-là précisément. Et en fait, elle a reçu plein de books. Et en fait, ça a matché avec une des élèves qui est en dernière année, je crois. Enfin, ou qui vient tout juste de sortir. Et donc, enfin, voilà, pour te dire comment ça
les coloristes avec lesquels on bosse à l'atelier, plusieurs auteurs, c'est coloristes qui sortent de Pivot aussi, quoi. Qui ne sont pas de notre génération forcément, mais qu'on connaît parce que l'un d'eux l'a eu en stage, etc. Et voilà, qui maintenant, c'est leur métier et sont hyper efficaces, quoi. Donc, généralement, c'est, oui, c'est du travail sûr pour ceux qui sont un peu confirmés, quoi.
Oui, bonjour. Alors, déjà, pour ce qui est d'une BD à quatre mains, j'avais pensé à la fille dans l'écran de Louloubi et je ne sais plus qui d'autre, où effectivement, c'est deux artistes qui dessinent chacun leur planche et leur personnage qui se croisent par Internet, mais donc qui ont deux vies totalement différentes. Donc, ça fait que cette BD-là, personnellement, m'a marqué beaucoup. Parce qu'en fait, à la fin, je regardais plus du tout l'aspect artistique, parce que ça rentrait complètement, c'était extrêmement fluide, alors que les deux styles sont très différents. Mais comme ils représentent des endroits séparés, ça fonctionnait extrêmement bien, j'ai trouvé, par rapport à justement votre idée de BD comme ça. La question que j'avais, c'était par rapport justement à Titan Terrible, qui est un format que je trouve vachement intéressant, qui est purement nantais, en fait, dans l'idée. Et justement, est-ce que vous savez si ça existe ce genre de format, d'édition, de choses comme ça, dans d'autres régions ? Parce que moi, je ne suis pas du tout du coin. Mais donc, j'aimerais bien un truc du genre qui soit du Nord, de Marseille ou choses comme ça. Ça pourrait être tout aussi intéressant.
Bah, comme je l'expliquais au début, je sais que ça existe. Ça a sûrement existé aussi avant. Et je sais que ça existe, par exemple, à Rennes, ils ont créé La Vilaine, où ils sont une vingtaine d'auteurs et d'autrices qui font une BD une fois par an aussi, sur le thème de Rennes. Mais là, ils sont vraiment pas dans la science-fiction, un truc comme ça, ils sont vraiment ancrés, c'est la vie, comment ça se passe à Rennes, enfin, j'ai pas tout lu, mais par exemple, je sais qu'ils ont invité Tom Simil comme auteur de Nantes pour pouvoir écrire sur Rennes. Et il y a Casier, justement, qui est à Brest aussi, qui réunit plein d'auteurs de bandes dessinées. Et sinon, dans le reste de la France, je sais pas trop. Bah, je sais que par exemple Casier s'arrête, La Vilaine non, je pense pas, ils sont en plein boom, quoi. Et maintenant il y a nous à Nantes, en fait. Et je sais pas s'il y a ailleurs, je sais pas si vous connaissez.
Il y en a forcément. Enfin, je pense qu'il doit y en avoir presque pas.
Oui, par région, ouais, il doit en avoir partout un peu. Ça se fait beaucoup, ouais. Là.
Logiquement, on les connaît pas, c'est tout.
Ouais, c'est ça. Je sais pas s'il y a encore d'autres questions ou.
Alors oui, c'est très très autoréférencé sur Nantes. On a déjà le dernier Atlas, par exemple. Vous avez pu les rencontrer, les auteurs Tancrel et Fred Blanchard et les autres.
Alors non.
Autour de la Maison Fumetti, non, pas spécialement.
Il y a en fait comme il y a un énorme vivier sur Nantes. Ouais. Fred Blanchard, je le connais, je l'ai déjà rencontré comme ça. Ouais. Mais après, je sais qu'il y a plein d'auteurs. Et en fait, justement, le but, c'est aussi que nous... Mais en fait, c'est un peu de dire, on adore ce qu'ils font et on aimerait trop qu'ils soient dans Titan Terrible. C'était le cas pour Hassen et Mélanie Allag, en fait. Mélanie Allag, je l'ai contactée par Instagram, on ne se connaissait pas. Et c'est cool, ça a fonctionné. Et à Seine, en fait, c'était
Govan qui m'a proposé.
Voilà, Govan Manhattan. Ouais. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on avait d'autres amis en commun, en fait, d'autres auteurs de bande dessinée qui se connaissaient. Enfin, tout le monde se connaît un peu à Nantes. Mais et le but, c'est justement faire découvrir dans le prochain Titan Terrible, qui j'espère sortira. On part sur quelque chose d'annuel, mais là, on va faire un peu une petite pause. Et parce qu'on doit reparler un peu avec nos partenaires et tout de comment ça va fonctionner. Et donc on ressortira dans 2 ans. Et le but, c'est de faire découvrir encore 8 nouveaux auteurs et 8 autrices différentes de la ville de Nantes, en fait. Et de mélanger justement jeunes auteurs encore et vraiment professionnels. Et je dis pas que les jeunes auteurs sont pas professionnels, mais enfin voilà, je vais pas me lancer dans le débat.
Oui, c'était la deuxième question que je voulais vous poser, mais vous venez d'y répondre. Donc, vous restez vraiment axé sur Nantes, hein, sur le vivier nantais ou enfin Nantes.
Alors, on n'est pas fermé, justement. Là, on parle un peu de Nantes. Pour nous, c'était un peu la facilité du premier volume, comme c'est plus facile de communiquer et d'en parler aux gens. Comme j'expliquais, on est en partenaire aussi avec le département et la région. Donc, notre but, c'est de ne pas fermer que à Nantes. Et même en termes de décor, on parle de Nantes et ses environs. Par exemple, Govan Manhattan, il l'a fait sur Guérande. Donc, en fait, on ne ferme pas du tout. S'il y en a qui veulent faire sur Angers, on ne ferme pas du tout la porte à ça s'ils veulent. Et même trouver des auteurs et des autrices qui sont de Angers, d'ailleurs, enfin, du département de la région, c'est intéressant. Après, on ne connaît pas encore tous ces gens-là. Et le but, c'est qu'on, au fur et à mesure qu'on sorte Titan Terrible, qu'on découvre ces auteurs-là, en fait. Je ne sais pas s'il y a encore d'autres questions. Ou... Alors, oui, elle est sortie justement là. Et on est dans la librairie associative, la grande librairie. Justement, on peut conclure alors sur cette phrase-là. Justement, moi, je voulais juste remercier les Utopiales et Xavier Fayet qui, grâce à lui, en fait, on a pu être là. C'est un peu un petit rêve pour nous, en tant qu'association et auteur de bande dessinée, enfin, d'être ici, de pouvoir présenter à tous les lecteurs et lectrices ce qu'on fait. Et c'est trop, trop bien. Bien sûr, nos partenaires, qui est la ville de Nantes, le département et la région. Et je voulais remercier tous les auteurs dans Titan Terrible, parce que sans eux, vraiment, ça n'existe pas du tout. Et tous les gens de l'association derrière moi, en fait, on est plusieurs dans l'association. Il y a Jason, Tom, Thomas, Victor, Tristan. Est-ce que j'en oublie ? Non, principalement. Et en fait, en gros, merci à toute l'association, merci aux Utopiales, merci aux libraires aussi, l'association de librairie de nous accueillir là. Et en fait, là, après, c'est la fin des questions. Il y aura Hassen et Méliania qui seront en dédicace pour Titan Terrible à la librairie. Et il y aura, en plus de ça, il y a pas mal d'auteurs qui y sont aussi. Et donc, en fait, si vous voulez faire une collection de dédicaces sur Titan Terrible, c'est le moment, en fait. Donc, je vous invite à tous aller à la librairie. Merci à tous, en tout cas, de nous avoir écoutés pendant cette heure. J'espère que ça vous a plu.
Merci beaucoup. Merci.